Heroic Little Sister de l'américain cher à nos cœurs, à moi et à mon invité Samuel Cajal. Tu fais très plaisir, hein, Samuel, en passant un titre de Troy dont on a vanté tous les mérites, hein, hors antenne. Alors tes œuvres sont très personnelles, donc je vais te poser des questions assez personnelles aussi, et pour connaître un petit peu Troy, c'est le moment de te les poser. Est-ce que ça te protège du monde extérieur, le fait de faire de la musique? Est-ce que c'est une question vache?
C'est une sorte d'illusion, ouais, auquel j'ai cru pendant longtemps, mais en vrai, non, ça marche pas. Ça m'a pas du tout protégé, mais c'est une sorte de petit cocon dans lequel je peux me blottir de temps en temps, oui. Même ne serait-ce que dans le travail, en fait. Faire un disque, c'est forcément s'enfermer dans une pièce et couper un peu les ponts avec tout ce qu'il y a autour. Et j'ai besoin de ça, ouais.
Et alors, Post-Apocalypse est une de tes compositions qu'on va écouter dès que tu nous en auras dit quelques mots.
Post-Apocalypse, c'est une chanson que j'avais commencé à écrire il y a longtemps. Moi, j'ai un temps de digestion de certains trucs qui est assez long. Donc, je commence une chanson, puis il y en a, elles sont finies dans l'heure, mais il y en a pas mal qui se finissent des années après. C'est le cas de Post-Apocalypse. Et je l'ai fini, j'ai fini le texte, en fait, après les attentats au Bataclan. Notamment parce que j'habitais à Paris, je jouais d'ailleurs ce soir-là, et ma nana était pas là, elle est rentrée tard parce que bref, la vie, et j'ai vraiment flippé, et c'est après ça que j'ai fini ce texte. Ça parle pas forcément de ça directement, mais ouais, c'est un petit peu une sorte de bossa nova de fin du monde, quoi.
Post-apocalypse, post-apocalypse.
Post-apocalypse de Samuel Cajal, qui me fait le plaisir ce soir d'être mon invité, qui s'est pas sauvé en cours d'émission, ce qui est une marque de gratitude qui me touche. Je la fais souvent, celle-ci. Alors, t'as choisi un artiste qui a séduit le grand public pour la suite de la programmation. T'en as d'ailleurs un peu parlé en début d'émission. C'est Renaud avec le titre Rouge-Gorge. Qu'est-ce qui te touche dans les chansons de Renaud?
Alors déjà, il n'y a pas toutes les chansons de Renaud qui me touchent. En tout cas, ça ne me touche pas du tout au même endroit.
Certaines chansons de Renaud.
Certaines chansons de Renaud. Je peux être très dur avec Renaud parce que j'ai beaucoup aimé Renaud quand j'étais gamin. J'adorais Renaud. Donc là, pour moi, Renaud, il est déjà un peu mort, en fait. Hein.
Artistiquement.
Ouais, puis même, tu vois, genre, embrasser un flic, putain, mec... Ton pote était chauron, il venait te voir et tu te sors ça, c'est pas possible. Bref. Mais ouais, et j'aime particulièrement, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas longtemps, donc il y a une paire d'années, je suis retombé sur ce disque-là, que je connais par cœur, parce qu'effectivement je l'écoutais quand j'étais môme, et il y a cette chanson, Rouge-Gorge. Et alors je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, c'est quand en fait j'ai compris maintenant, ça me fait le lien avec le film Le Joli Mai, de Chris Marker. Je ne sais pas si tu vois ce film. Chris Marker, c'est celui qui a fait La Jetée, qui est à l'origine de l'Armée des Douze Singes. Et Le Joli Mai, c'est, je ne sais plus quelle année, l'année 1962, si je ne dis pas de bêtises, sur un état des lieux de la ville de Paris en mai 62. Et c'est extrêmement touchant, hyper poétique. Et en même temps, c'est fascinant comment le monde à quel point le monde a changé par rapport à maintenant et à quel point c'est le même. Il y a toujours la peur des barbares. C'est la guerre d'Algérie. Il y a les nouvelles constructions, les cités. Il y a tout un monde qui est en train de s'écrouler et dont parle Renaud. C'est tous ces anciens ateliers, le Paris populaire qui en fait est en train de devenir une ville carte postale. Mais pareil, c'est un truc que j'ai vachement vécu, moi, en ayant vécu 15 ans à Paris, avec les JO, etc. La vie populaire à Paris est circonscrite à quelques quartiers, mais en fait, on pousse les gens dehors pour en faire une ville carte postale, quoi. Et c'est dramatique.
Prolo ordinaire, peuple de Paris, rouge-gorge et fier d'être né ici. Quartier populaire, bistrots et bougnats, et marchés couverts, rue des enfants rois. Rouge-gorge doit son surnom bizarre à sa jolie voix et à son foulard. Rouge son foulard, retour de son cou, rouge sa mémoire, à jamais debout. Rouge-gorge chante le temps des cerises dans les rues vivantes lorsqu'un jour arrive le temps des noyaux et des bulldozers et des vrais salauds en costume clair. Quelques sous-ministres attachés caisse et mine sinistre, l'âme versaillaise décrète trop vieux pour ce quartier-là. Il foutra le feu si le vieux s'en va pas. Raser la maison, détruit l'atelier, des cages en béton les ont remplacées. Adieu réverbères, ampoules au plafond, bonjour la lumière des tristes néons. Chasser les prolos et chasser la vie, parkings et bureaux ont bouffé Paris. Les petites gens sont les gens sérieux, iront gentiment peupler les banlieues. Chante rouge-gorge, le temps des cerises, Savigny sur Orge paraîtra moins grise. Chante aussi Paname que les assassins ont livré aux flammes sans brûler leurs mains. Chante la mémoire que Douaneau préserve de Paris le soir d'avant qu'elle crève. Chante la bâtarde Paris la soumise que Douaneau regarde et qui agonise. Et qui agonise.
Le titre Rouge-Gorge de Renaud qui s'est chanté, hein, qui savait chanter la nostalgie et la mélancolie, et ça c'est important en chanson. Et puis la petite surprise en ce milieu d'émission, Samuel Cajal, mon invité, va nous interpréter un titre en live et en acoustique et en direct au ukulélé. Ça s'appelle Les Marins. Samuel Cajal.
Alors j'ai coutume de dire, donc le ukulélé, c'est un instrument qui est fait pour jouer des do majeur et faire des chansons en gai. Donc forcément, moi j'ai fait une chanson d'adieu. Tu vois, un peu les adieux que tu peux faire à quelqu'un que tu as aimé très, très, très fort Et au moment où tu sais qu'en fait c'est peut-être fini et qu'en fait on va peut-être plus jamais se parler. Ça fait mal, ça. Est-ce que tu te souviens de cet ancien futur? Quand nous voulions devenir des marins, des rockstars de la voilure, ouvriers fiers de leurs mains, sache que je t'aimais. Sache que je t'aimais bien. Sache que je t'aimais. J'ai même eu presque envie de toi une ou deux fois. C'était une autre vie, rappelle-toi. Avant que le ciel bleu navire au noir et que la pluie ne nous assomme. Sache que je t'aimais bien. Sache que je t'aimais bien. Sache que je t'aimais. Aujourd'hui, je ne crois plus au futur. L'océan, c'est l'eau fanée, fait pleurer les marins. Les rockstars non plus aucune envergure. Les ouvriers se croient techniciens. Mais sache que je t'aimais bien. Sache que je t'aimais. Sache bien que je
t'aimais d'un ukulélé et de sa seule voix, Samuel Cajal, mon invité ce soir, vient de nous interpréter Les Marins en direct, en acoustique dans l'émission Tour de Piste. Je te laisse te rasseoir tranquillement, Samuel, avant de nouveau te harceler de questions plus ou moins discrètes. Alors, Cajal, oulalala, ton deuxième album a été écrit avant le confinement, alors cette période de crise sanitaire qu'on a tous connue. A eu quel impact sur ta manière de travailler et sur ton troisième album?
Manque de moyens oblige, c'est ce deuxième disque, je l'ai fait tout seul chez moi. C'est pas moi qui l'ai mixé, celui par contre, mais c'est la première fois que j'ai fait un disque vraiment en autonomie. Le premier, je l'avais fait beaucoup avec Johan Guidou et Mathieu Le Sénéchal, qui étaient mes deux anciens comparses dans 3 minutes sur mer, qui m'ont beaucoup aidé. Là, j'ai tout fait pour la première fois. Et donc voilà, c'est là que j'ai pu me faire confiance jusqu'au bout de mes intuitions, mes envies, mes idées, sans avoir un truc de légitimité en fait. Voilà.
C'est quoi le sentiment qui motive le plus ton besoin d'écriture, si on peut parler de besoin?
Ah, parce qu'il y a deux choses. Pour être assez pragmatique, il y a aussi le besoin de sortir un disque pour pas pour continuer un peu d'exister pour les gens, parce qu'en fait on est dans une ère où en fait on est très 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 vite oublié et où les gens passent vite à autre chose. Donc si j'attends 10 piges avant de sortir un disque, ça va être assez compliqué. Donc il y a cette donnée là. Après, il y a eu tout. En fait, aujourd'hui, je pense que j'arrive à la fin de... Après 3 minutes sur mer, j'avais plein de chansons dans les poches. Donc il y en a plein que j'ai fini, notamment sur le premier et sur le deuxième, et aussi un petit peu sur le troisième, parce qu'en fait, j'en avais beaucoup. Il y en a plein d'autres que j'ai écrits en cours de route. Là, je commence un peu plus à écrire des chansons en pensant comment moi je me sens maintenant en tant que chanteur et en live. Parce que chanter des chansons tristes et très langoureuses et très lentes, ça c'est assez facile pour moi. Mais essayer d'écrire des chansons qui font que les gens ne se tirent pas une balle en live au bout de 20 minutes de chansons lentes, ça c'est un peu plus compliqué. Et à la fois ça va, j'étais assez punk plus jeune, donc il faut que je me connecte un peu justement à d'autres choses, un peu plus à NTM ou à Kurt Cobain, voilà, de temps en temps. Pas que j'oublie aussi que je viens de là. Et qu'est-ce qui me motive ? Putain, mais... C'est difficile de répondre à cette question parce que là, j'ai l'impression d'arriver à la fin d'un cycle. Et tu sais quoi ? Je suis même pas sûr d'en écrire un autre de disque. C'est tellement compliqué. Je suis même pas si je vais être intermittent encore à la fin de l'année prochaine. Donc peut-être que pour survivre, je vais être obligé de faire autre chose. Peut-être que je continuerai d'écrire des chansons.
Mais
j'arrive à la fin d'un cycle. Je sais pas comment le dire autrement. J'ai perdu mon père jeune. Il y a eu 3 minutes sur mer. Il y a eu... là, j'ai eu des enfants. Là, avoir des enfants, ça m'a redonné envie d'écrire 2-3 bêtises quand même. Là, maintenant, je sais pas trop, mis à part le chaos qui s'annonce, je sais pas trop sur quoi me connecter pour écrire des chansons. Et écrire des chansons sur le chaos... ça m'intéresse pas trop.
Alors c'est une question forcément un peu récurrente hein, quand on interroge l'écriture. Quelles sont les œuvres littéraires et poétiques dont tu t'es nourri, dont t'as nourri ton univers ?
Je suis obligé de citer Céline. Je suis obligé de citer Nab aussi. Alors des fois il peut être relou Nab, mais... Mais il peut être brillant, hein, putain. Je suis obligé de citer Kundera. Je suis obligé de citer René Goscinny. Après, c'est... Ouais, je parlais du Joli Mai. Il y a aussi des films comme ça qui... Le Joli Mai, Un singe en hiver. C'était des références pour moi aussi. Il doit y en avoir d'autres, mais là à brûle pour point, c'est ça qui me vient comme nom.
Alors on va écouter un deuxième titre extrait de Cage Album 3, il s'appelle Le Vertige. On est dans des ressentis très personnels.
Le Vertige justement c'est la chanson de l'homme enceinte. La vision d'un homme qui attend un enfant, même si c'est pas dans son corps, mais il sait qu'il va se passer quelque chose et ça lui fait un peu peur. Voilà.
Il y a deux cœurs dans ma poitrine. L'un de ne bat que pour toi, suspendu dans le vide, accroché à aucune paroi, attendant ton air. Dans placenta, attendant ton âme. Dans le liquide, entends-tu le bas de ma voix? Entends-tu le bas de ma voix? Et as-tu le vertige? Oui, as-tu le vertige?
À l'instant, le morceau Le Vertige de Samuel Cajal, qui est ce soir jusqu'à 21h, ou voire un peu plus à mes côtés, pour nous raconter sa vie en musique et nous parler de son dernier album en date qui s'appelle Cajalbum 3. On va continuer avec des ambiances très lofi et des tempos très lents avec le groupe Low et le titre Plastic Cup. Tout comme pour Troy Van Balthazar, c'est un univers musical qui a été très inspirant pour toi, ça, celui de Low.
Carrément. Quand on parlait de Thomas Burgel tout à l'heure en antenne, ouais. C'est lui qui m'a mis sur la piste de Low, qui était un groupe sur lequel j'étais complètement, qui était passé complètement sous mes radars pendant des années. Et c'est mon dernier énorme coup de cœur depuis 8 ans maintenant. Je crois que j'ai fait une année par disque. En boucle, donc là en ce moment c'est cet album là The Invisible Way, et voilà, ces deux voix ensemble et cette harmonie, voilà, je pense vraiment que McCartney et Lennon, ils auraient pas fait mieux.
Dans ce cas, on écoute Plastic Cup. Hello.
Count on your friends to get you high. That's right. You could always
Plastic Cup de Low. Alors les ambiances des chansons de Low sont assez sombres, hein. C'est quelque chose que t'as en commun avec eux, entre autres.
Tu trouves?
Oui.
Alors, mais vraiment, sérieusement, moi je trouve que c'est extrêmement lumineux.
Coquin. La musique, est-ce que c'est un moyen d'aller vers la lumière pour toi?
Ah non, mais en plus je rigole pas, hein. C'est...
Oui, mais...
Je trouve ça extrêmement lumineux, c'est... Lent, c'est langoureux, mais c'est très majeur d'ailleurs. Il ne joue que avec des open, un open de sol, si je ne dis pas de bêtises, un open de sol majeur. C'est extrêmement, extrêmement ouvert. Ah non, moi je trouve que c'est ouais, un petit goût d'un joli ciel bleu et d'un vert pâturage.
Oui, oui, mais c'est vrai, t'as raison. C'est une espèce de truc un peu mélancolique, mais avec de la lumière.
Ah, on est tranquille, on est bien.
Ouais,
on
ouais.
Est bien.
La musique, c'est un moyen d'aller vers la lumière pour toi?
Ah bah carrément, oui, carrément. Est-ce qu'il faut que je développe?
T'es pas obligé, t'es pas obligé, on peut oser.
Non, mais parce qu'en fait, la musique, on peut aller dans toutes les couleurs